Si vous voulez vous tourner avec moi dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, chapitre 6, prions ensemble. Seigneur, oui, tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui voit tout. Même lorsque nos yeux ne voient pas les choses, Seigneur, elles se passent autour de nous. Et merci pour ta parole. Merci pour sa vérité. Ta parole est la vérité. Jésus, c'est la parole incarnée qui est la vérité, le chemin, la vie. Et Seigneur, toutes ces choses ont été écrites pour nous sur qui la fin des temps est arrivée. Et Seigneur, nous voulons croire que tu as des leçons. Tu veux nous encourager, Seigneur. Tu veux nous faire du bien. Tu veux aussi nous reprendre par ta parole, par ton Esprit Saint. Sois glorifié dans nos cœurs, dans notre assemblée, dans nos activités, dans nos familles. Sois béni, Seigneur, parce que c'est ta volonté. Tu veux te révéler. Tu veux nous montrer qu'il y a des choses qui existent que nous ne voyons pas, Seigneur. Et nous demandons d'ouvrir nos yeux, les yeux de notre cœur, Seigneur, pour voir la réalité de ton existence, la réalité d'un combat spirituel, la réalité de ton amour, même lorsque apparemment il ne se passe rien dans nos vies, pensons-nous. Seigneur, tu vois toutes les distractions, on te demande de nous aider à nous concentrer sur ce que tu veux nous dire à chacun ce matin. Sois béni, nous prions ces choses dans le nom précieux et puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. En mai 1990, certains d'entre vous n'étaient pas encore nés, mais j'habitais les États-Unis, mais j'étais venu faire un voyage en France, voyage d'évangélisation avec une équipe. On avait parlé à des jeunes dans des écoles, sur la place publique dans le nord de la France. Et puis je connaissais un pasteur à Nice et j'étais descendu lui rendre visite. Il était le pasteur de l'église évangélique libre de la rue Papon, près de la place de Garibaldi. Une petite église qui datait d'une centaine d'années, alors avec des hauts et des bas, etc. Mais j'avais été invité à apporter le message ce jour-là, quand j'étais venu ce dimanche. Et il se trouve que j'avais justement choisi le passage que nous allons étudier aujourd'hui. Donc c'est pas la première fois que j'enseigne sur ce passage. Ça veut pas dire que ça va être mieux que d'habitude. Mais c'est un passage qui me tient beaucoup à cœur. Parce que il nous montre que nous devons apprendre, en tant que chrétiens, à voir l'invisible. Voir l'invisible, ça paraît stupide. Si c'est invisible, c'est qu'on ne peut pas le voir. Une chose qui est remarquable, c'est que aujourd'hui, nous avons d'autant plus de raisons de voir l'invisible ou de croire à l'invisible que la science nous a appris beaucoup de choses. Et une des choses, c'est que toutes les choses qui existent ne sont pas nécessairement visibles. Et j'imaginais qu'en fait, il y a 300 ans, lorsque des prédicateurs appelaient les hommes auxquels ils prêchaient de croire à l'invisible, ça devait leur être beaucoup plus difficile qu'à nous aujourd'hui, à l'époque des smartphones, à l'époque du Wi-Fi, à l'époque des radars, à l'époque des ondes radio, des ondes télé, à l'époque des micro-ondes. Toutes ces choses utilisent des choses invisibles. Je suis sûr que si vous n'avez pas réglé votre smartphone ou votre ordinateur aujourd'hui, que vous l'allumez dans cette salle, vous allez découvrir qu'autour de vous, il y a plusieurs réseaux Wi-Fi. Il y en a plein. Vous promenez dans la rue, vous appuyez sur un bouton et vous voyez qu'il y a, plein de choses qui se passent dont vous n'êtes pas conscient. Parce que pour être conscient de ces choses, il faut avoir le bon récepteur. Dans cette salle, on peut entendre du chinois. Vous l'entendez ? Ça n'existe pas. Je suis sûr que si on avait un récepteur onde courte, j'aurais dû apporter mon récepteur onde courte, on pourrait se mettre sur la fréquence des ondes courtes d'émissions en chinois, d'émissions de radio en chinois. Lorsque les chrétiens parlent d'une autre dimension des choses, les incroyants disent « Ils sont givrés, ces chrétiens. Ils sont fous. Moi, je ne crois que ce que je vois. » Et pourtant, leur vie est fondée et marche, se fonde sur des choses qu'ils ne voient pas. Et aujourd'hui, dans l'exemple que nous allons lire, dans le passage que nous allons lire, on va voir qu'il existe une réalité spirituelle. Il y a un combat spirituel. Des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, mais des choses qu'on peut sentir avec nos yeux spirituels. Lisons ensemble à partir du verset 8, chapitre 6 du deuxième livre des Rois. C'est la page 381 si vous avez une Bible à la colombe, celle que l'on vous a peut-être passée. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit « Mon camp sera à tel ou tel endroit. » Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. » Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement une ou deux fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne. » Monseigneur le roi. Seulement le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit, allez voir où il est, et je l'enverrai prendre. On vint lui rapporter, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, « ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendent vers Élisée, alors il pria l'Éternel en disant « Frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée « Frapperai-je ? Frapperai-je, mon père ?» Il lui répondit « Tu ne frapperas pas. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc ? Mets devant eux du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent, qu'ils s'en aillent ensuite vers leur Seigneur. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et bu. Puis il les laissa partir et ils s'en allèrent vers leur Seigneur. Les troupes des Syriens ne continuèrent plus à venir dans le pays d'Israël. Un court récit de plusieurs miracles accomplis par le prophète Élisée. Le roi de Syrie, on pense que c'était Ben-Hadad, était en guerre avec Israël et il se trouve qu'il essayait d'organiser des attaques dans des points stratégiques. Et donc au verset 8, il disait on va aller à tel ou tel endroit pour attaquer Israël, dont le roi à l'époque était le roi Joram. Ce n'était pas un grand ami d'Élisée, mais il avait fini par respecter Élisée. Et Élisée était prêt à le soutenir en lui donnant une information. Dieu plutôt donnait une information à Élisée sur les plans des Syriens. Et Élisée était prêt à partager cette information stratégique, cette intelligence, ces résultats de reconnaissance aérienne par des drones. Non, il n'y avait pas tout ça, mais Dieu voyait tout et il le communiquait à son prophète. Dieu voit tout. Rien n'est caché devant lui. Ça, c'est quelque chose qui doit nous encourager et c'est aussi quelque chose qui peut nous inquiéter si ce que nous faisons n'est pas conforme à sa volonté et que nous savons que nous péchons. Dieu voit tout et il savait, il voyait, il entendait les conversations du roi de Syrie avec ses généraux, ses troupes ou ses conseillers secrets. Et donc, Élisée qui était averti par Dieu, c'était un premier miracle, il en informait le roi, et le roi en tirait les conséquences. Il allait mettre des troupes là où le roi de Syrie avait prévu de préparer une embuscade. Peu importe, ça se produisait, ça s'est produit. J'aime bien plutôt l'expression « cela n'arriva pas seulement une ou deux fois ». Ça veut dire que c'était vraiment frustrant. À chaque fois qu'il pensait avoir une bonne idée, on va aller à tel endroit, et là, on va les avoir. Ses plans étaient déjoués. Au point que le roi de Syrie, il est dit qu'il avait le cœur troublé. Le terme serait plus fort, c'était il était comme secoué par une tempête. Il était furieux, il se disait « Mais qu'est-ce que c'est ? Il y a un traître parmi nous. » Et il a demandé « Dites-moi qui d'entre vous est le traître ?» Ou dénoncez-le si vous ne voulez pas vous dénoncer, vous qui êtes le traître. Et puis il y a l'un des serviteurs, le texte ne le dit pas, mais vous vous souvenez d'un certain général Naaman qui avait été guéri par le prophète Élisée de sa lèpre. Peut-être c'était lui qui, connaissant Élisée, savait qu'il était capable d'accomplir des miracles. Et lui, il savait que ça n'était que par l'intermédiaire de cette connaissance surnaturelle des plans du Syrien que le roi d'Israël pouvait les éviter. Ça montre à quel point la renommée d'Élisée, de cet homme de Dieu, était grande. Alors c'était un des grands prophètes de l'Ancien Testament. C'était une préfiguration de Jésus-Christ, comme Élie, le prophète qui l'avait précédé, était une préfiguration de Jean-Baptiste. Même au niveau vestimentaire, etc., il y avait une ressemblance. Mais ce prophète était connu. Cet homme de Dieu avait bâti une réputation. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que si vous suivez le Seigneur de tout votre cœur, si vous avez une vie intègre, si vous mettez en pratique les instructions, les préceptes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, si vous êtes des disciples de Jésus-Christ, de toute votre force, de toutes vos forces, sachez que ça va se savoir. Sachez que vous allez avoir une influence. Des fois, vous vous dites, mais à quoi bon, personne ne veut venir avec moi à l'église, personne n'écoute l'évangile, détrompez-vous. Les gens autour de vous vous regardent. Les gens autour de vous vous remarquent. Vous êtes comme en vitrine. Si bien sûr vous admettez, vous témoignez autour de vous. Vous pouvez rester un agent secret pour Dieu, mais à ce moment-là, votre vie n'aura aucune influence. N'hésitez pas à parler de Dieu. N'hésitez pas à parler de vos activités en rapport avec votre foi en Dieu. Et ce prophète, il était connu même à l'intérieur du cercle rapproché autour du roi de Syrie, au point que peut-être Naaman, peut-être quelqu'un d'autre a dit, en fait, c'est le prophète Élisée qui entend tout ce que tu dis par l'intermédiaire de Dieu qui le lui révèle. Il entend même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Autrement dit, là, l'endroit où on pense avoir l'intimité la plus grande, la discrétion la plus grande assurée, lorsque vous faites des confidences ou lorsque vous parlez avec votre épouse, si vous êtes marié dans votre chambre à coucher, normalement, il n'y a pas de micro, à moins d'être dans une ambassade avec des micros, les murs truffés de micros, mais généralement, on est en sécurité. Et là, l'homme lui dit, il n'y a pas de sécurité. Toutes tes paroles sont entendus par Dieu qui les transmet à Élisée qui sait tous tes plans. Verset 13, le roi dit « Allez voir où il est et je l'enverrai prendre. » La stupidité du non-croyant. Exemple flagrant. Il dit à ses troupes d'aller se saisir de l'homme qui entend tout ce qu'il dit. Il ferait mieux peut-être de l'écrire, peut-être que Dieu n'aurait pas reconnu son écriture. Il aurait dû se douter que Élisée allait être au courant de ses plans. On vint lui rapporter, il est à Dothan, pas loin de Samarie. C'est un terme qui est utilisé dans une cité plutôt qu'on retrouve deux ou trois autres fois dans la Bible. Et là, verset 14, il envoie pour prendre un seul homme. Dothan était une ville construite sur une colline et qui dominait à 360 degrés toute une plaine. Et il envoie des tas de troupes, des chevaux, des chars. Les chars, c'était les chariots, qui étaient une arme redoutable à l'époque. C'était l'équivalent des tanks ou des avions de combat. C'est une puissance remarquable. Et le matin, donc, il s'installe la nuit autour de la ville, autour de la colline. Et le matin, l'assistante de l'homme de Dieu, on ne sait pas si c'est le serviteur Géasi dont on a parlé, sur qui la lèpre était tombée parce qu'il avait essayé de soutirer de l'argent et des biens suite à la guérison de Naaman. Il est possible que ce soit lui, possible que ce ne soit pas lui. Une chose importante lorsque vous lisez ces livres des rois, c'est de réaliser que ce n'est pas toujours nécessairement dans un ordre chronologique. Au verset 8, au chapitre 8, il sera encore de nouveau question de Géasi. Peu importe, un serviteur, là je pense que c'est un autre jeune serviteur qui se lève et qu'il voit la troupe qui entoure la ville. Il y a des chevaux, il y a des chars, ils sont en nombre impressionnant, et là ils paniquent. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? C'est terrible! Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Ça pourrait être traduire par on est fichu, on est foutu, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, le prophète Élisée lui répond: Combien sont-ils? 3 000? Combien sommes-nous? 3? Encerclons-les. Non, c'est pas ce que dit la parole, ça c'est la blague de potache qu'on raconte. Au contraire, il lui dit: n'aie pas peur. La Bible nous dit: n'aie pas peur, près de 366 fois. Chaque jour, ce serait d'ailleurs un bon petit travail à faire, vous pouvez faire une étude biblique sur un des « n'aie pas peur, ne crains rien, sois confiant ». N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors le jeune serviteur, là, il doit dire, ça y est, Alzheimer. Je savais bien qu'il commençait à débloquer le prophète. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a perdu la vue. Soit il voit pas que la troupe est en nombre bien supérieur à lui et à son serviteur et peut-être quelques habitants de cette ville de Dothan. N'aie pas peur. Des fois, les gens essayent de vous consoler en disant oh, c'est terrible, tu as perdu ton emploi, mais n'aie pas peur. Quand on a peur, c'est pas le tout que quelqu'un nous dise « n'aie pas peur ». On aimerait bien avoir des raisons de savoir pourquoi on ne doit pas avoir peur. « N'aie pas peur car le pôle emploi veille ». Ah, on peut retirer ça de... Je plaisante. « N'aie pas peur car », il donne une première raison, « ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux ». Verset 17 nous explique ce que Élisée n'est pas atteint d'une déficience mentale, n'est pas atteint d'une myopie fantastique à enrichir à flou. Non, il prie le Seigneur, il lui dit: ouvre Seigneur ses yeux, Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. Seigneur, permet à ce jeune homme, à ce jeune serviteur, de voir l'invisible. Et je me souviens, lorsque j'avais prêché ce texte à cette petite église à Nice, il y a maintenant 22 ans, je leur avais dit, je les avais encouragés en disant: je suis arrivé hier matin par le train à Nice. première chose qu'on voit, malheureusement c'est quelque chose qu'on voit encore, c'est des sex shops en face de la gare. On voit des embouteillages, on voit des gens pauvres, on voit des mendiants, on voit des gens pressés, on voit des gens soucieux, des gens qui ne sourient pas. Je lui dis ça, c'est ce qu'on voit, mais sachez qu'autour de Nice, il y a une armée d'anges. Il y a des anges qui veulent faire avancer le royaume de Dieu dans cette ville. Et depuis ce moment, nous en sommes une, on n'est pas encore une grande moisson, mais il y a des églises qui n'étaient pas là lorsque je suis venu il y a 22 ans. Il y a des anges. Il y a des anges dans un monde que nous ne voyons pas, qui veulent vous fortifier, des anges qui veulent vous aider à remporter des victoires. Le terme d'ange gardien, c'est un terme plutôt à connotation populaire qui c'est un peu des fois comme le Père Noël. Mais la Bible nous parle de la réalité de ces gens, de ces anges, de ces esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ça, c'est la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 14. Il y a des anges, des envoyés, c'est ce que veut dire le mot ange, messager, envoyé, par Dieu pour aider, soutenir ceux qui sont des saints, ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire pour vous et moi. Et Élie nous remerciait d'avoir prié pour Jessaline, que sa blessure ne soit pas sérieuse, il n'ait pas des conséquences graves, des séquelles. Mais il y a peut-être un de ces anges qui a retenu le couteau juste au dernier moment. Il s'en est fallu d'un demi-millimètre peut-être. Mais il y a une réalité de ces anges. Encore une fois, ces choses qu'on ne voit pas, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Dans Éphésiens, la lettre de Paul à l'église d'Éphèse, chapitre 6, Paul nous exhorte en disant « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Autrement dit, le combat qui se passe, le vrai combat, ce n'est pas un combat contre des hommes et des femmes. Mais nous avons à lutter contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et il ajoute, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Si nous voyons les choses avec une vision parfaite, nous verrions des combats dans le monde spirituel, dont nous sommes l'enjeu, dont l'Église, nos familles, nos enfants sont l'enjeu. Mais nous, nous sommes tellement préoccupés par les choses visibles que nous oublions qu'il y a tout un monde de choses invisibles. Dans 2 Corinthiens 4, Paul a ces paroles assez révélatrices, assez révolutionnaires. Verset 16, 2 Corinthiens 4, 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Peut-être que vous êtes découragé de voir que vous n'êtes plus aussi fort que vous étiez lorsque vous étiez beaucoup plus jeune. Votre homme extérieur, votre femme extérieure se détruit progressivement. Si vous avez moins de 20 ans, ça vous pouvez pas le comprendre, mais rassurez-vous, vous allez comprendre très rapidement. Plus rapidement que vous ne le souhaiteriez. Et plus on avance en âge et plus on le réalise. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Toutes les souffrances de la vie, il les considère comme quelque chose de passager, de très court. Et c'est vrai qu'au regard de l'éternité, notre vie ici, même si on atteint 100 ans, 120 ans, ça reste court par rapport à l'immensité de l'éternité. Et la conclusion de cette prise de conscience, c'est que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles, elles, sont éternelles. C'est par la foi que l'on doit voir ces choses. C'est en mettant notre foi en Dieu, en lui demandant d'ouvrir nos yeux, que l'on peut voir la vérité. Dans le même chapitre de Corinthiens 4, Paul disait que si notre évangile est encore voilé, il l'est voilé pour ceux qui périssent. Les gens autour de nous ne peuvent pas saisir la vérité de l'évangile. Ils pensent que ce sont des mensonges obscurantistes du Moyen-Âge, que c'est un scandale de s'opposer à des choses comme une plus grande liberté sexuelle, le remboursement des IVG, le mariage des homosexuels, c'est de l'obscurantisme. Et on peut essayer de les convaincre que l'abortion, c'est pas la solution, l'avortement, pardon, c'est pas la solution, ça rime en anglais, mais pas en français. L'avortement, c'est le résultat de l'aveuglement. Ça marche comme ça, une rime. Prions pour Nathalie, qui doit apporter ce message dans un milieu hostile. Si ceux-ci ne peuvent pas comprendre la vérité de l'Évangile et ne pas l'embrasser, il est voilé pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Si les gens autour de vous ne viennent pas à Christ, c'est parce qu'ils sont aveuglés. Et la seule solution, c'est d'abord de... C'est vrai qu'il faut leur parler, mais vous ne pouvez pas espérer les convaincre sans la prière, sans le jeûne. C'est un travail invisible, c'est un travail spirituel, et pour accomplir un travail spirituel, il faut utiliser des armes spirituelles. On n'a pas le temps, c'est ce dont parle Paul dans Éphésiens 6, il donne la liste de la panoplie des armes spirituelles. Je vous invite à le regarder, à l'étudier. Mais on ne peut pas s'attendre à remporter des victoires dans le monde spirituel si on n'utilise pas des armes spirituelles. Et pour revenir à notre texte, Élisée ne s'énerve pas après ce jeune qui ne voit que le grand nombre d'opposants, de gens hostiles à l'annonce de l'amour de Dieu, à l'annonce de la vérité en Dieu, à l'annonce de la réalité du vrai Dieu vivant, le vrai Dieu vivant d'Israël. Il prie. Et à chaque fois que Élisée fait un miracle, c'est une réponse à une prière. Vous pouvez prier pour que le Seigneur ouvre les yeux. Si quelqu'un est aveugle, vous pouvez lui mettre un projecteur de milliers, je connais pas très bien les unités, de candela ou de lumens. Vous pouvez lui mettre le plus gros projecteur, ceux qui font des grandes traces dans le ciel, vous savez, la nuit. Lui mettez dans le visage à 2 cm, ça ne le fera pas voir. Et des fois, c'est ce qu'on fait lorsqu'on donne tous les arguments que l'on croit si convaincants et on voit que ça n'apporte rien. Il faut, pour que l'aveugle voit qu'une opération soit accomplie, que les yeux soient raccordés au cerveau, soit par une opération de la rétine, soit par un travail sur les nerfs, soit par un miracle. Et de la même façon, il faut cette opération du Saint-Esprit qui va ouvrir les yeux spirituels de quelqu'un. Et lorsque l'on prie, surtout ce genre de prière, je vous invite à la faire pour ceux qui vous sont chers et que vous voyez loin de Dieu. Ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit des chariots of chariots of fire, des chariots de feu tout autour de la montagne. Il y avait toute une armée céleste puissante qui était là. Et je suis convaincu que c'est une réalité spirituelle. Qu'autour de vous, il y a des anges qui veillent. Autour de votre famille, il y a des anges qui veillent. Autour de notre église, il y a des anges qui veillent. Autour de notre ville, il y a des anges qui veillent. Et la bonne nouvelle, de ce point de vue, c'est qu'ils sont plus nombreux que les mauvais anges qui veulent nous amener à notre perte. Lorsque Satan s'est rebellé contre Dieu, un tiers des anges, des êtres angéliques, si seulement tous les évangéliques pouvaient être angéliques, prions pour ça, il y en a un tiers qui sont allés avec Satan et 2/3 qui sont restés avec Dieu. Dieu finit par gagner, c'est la bonne nouvelle. Peu importe les vicissitudes de l'histoire, les persécutions, les élections qui ne tournent pas comme on aurait pensé que ce serait le mieux pour l'Église, Dieu va finir par gagner. Alléluia. Et là, on voit comment Dieu veut aussi nous ouvrir les yeux pour qu'on voit resplendir le glorieux évangile de Jésus-Christ. Les Syriens viennent pour prendre Élisée. Alors, Élisée fait faire un autre miracle. Il prie l'Éternel, aveugle cette troupe-là, et aussitôt, la troupe est frappée d'aveuglement. Il devait leur rester une certaine vision, puisque Élisée va les emmener dans la ville de Samarie. Eux qui venaient l'attaquer, il va les amener prisonniers du roi d'Israël dans sa capitale de Samarie.
Papa, on va aller attraper Élisée.
Pareil aux incroyants qui disent « Oh, on va se débarrasser de cette religion obscurantiste. » Dieu peut les emmener en plein dans la ville où ils se trouvent. Il peut les amener auprès de lui. Il peut les sauver. Il veut les sauver. Amen. Et un autre miracle, une fois qu'ils sont dans la ville, la capitale, il leur dit, maintenant qu'ils sont, « Ouvre leurs yeux, Seigneur, je t'en prie. » Et là, ils réalisent, ils retrouvent la vue et ils voient qu'ils sont en territoire ennemi. Le roi d'Israël, le roi d'Israël, la belle, le roi d'Israël salive déjà et dit « on va pouvoir massacrer tous ces soldats ». Et Élisée lui fait remarquer que ce n'est pas une chose à faire, qu'il est bon d'être généreux envers ses ennemis. Et il lui dit « mets-les plutôt à table, donne-leur de quoi manger, de quoi se restaurer et qu'ils aillent et donne-leur la liberté ». Et nous aussi, lorsque des hommes et des femmes viennent à Dieu, nous devons, ou refusent, ou sont sur le point de venir à Dieu, on doit leur montrer tout l'amour dont nous avons nous-mêmes été bénéficiaires. Ils peuvent venir s'asseoir à la table du grand roi, se repaître, se désaltérer, se nourrir de toutes ses promesses, de tous ses bienfaits, de toutes ses bénédictions. Et puis après, ils sont libres et ils peuvent aller parler à ceux qui les ont envoyés. Et le résultat, c'est que le roi d'Israël, devant ce traitement, cet amour, a cessé d'aller attaquer Israël, le roi de Syrie, pardon, a cessé d'attaquer Israël, et la paix est revenue. Voir l'invisible, on en reparlera parce que c'est une clé dans plusieurs des passages qui vont suivre. La foi, elle ne change rien à la réalité des choses. C'est important de réaliser. C'est pas la foi qui donne l'existence des choses, la foi, c'est comme une paire de lunettes qui permet de voir les choses qui sont. Mais on réservera cela pour une autre étude dans la suite avec Élisée.